Écoutez RTL, il est 7h.
7h, 9h,
RTL Matin.
Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
Et le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une ce matin, ce nouveau drame à Châteauroux.
Un adolescent tué à coups de couteau par un jeune de 15 ans, déjà connu des services de police. Il est toujours en garde à vue avec sa mère. Le gouvernement veut s'inspirer du modèle italien pour créer un vrai statut de repentir et lutter contre le trafic de drogue.
Alors, bonne idée ou pas, je pose la question à l'un des meilleurs spécialistes en France de la mafia, Fabrice Rizzoli. Il sera mon invité à 7h15.
Le dérapage budgétaire débattu aujourd'hui à l'Assemblée. Vendredi, la France a évité le pire. Pas de sanctions des agences de notation.
Joue-t-on à se faire peur? La situation est-elle vraiment grave? À 8h20, rendez-vous avec le fondateur du Cercle des économistes, Jean-Hervé Lorenzi, que nous accueillerons avec François Langlais.
Et puis le football, Paris se réveille champion de France et Brest avec son tout premier ticket pour la Coupe d'Europe.
RTL Matin.
Un adolescent et sa mère sont toujours entendus ce matin par les enquêteurs à Châteauroux, deux jours après la mort d'un garçon de 15 ans tué à coups de couteau. Et dans le quartier où les faits se sont produits, les questions restent nombreuses, Christian Panvert.
Dans le quartier Saint-Denis, la maman de Mathis, soutenue par des proches, dépose un bouquet de roses blanches sur le lieu du crime. Sonia, une voisine, observe la police scientifique réaliser les derniers relevés. Elle était là au moment des faits.
J'ai entendu un monsieur crier, je croyais que c'était une dispute. J'ai juste entendu, tu te rends compte, il a 15 ans comme toi. Qu'est-ce que vous avez fait ? Hier soir, j'ai mes sœurs qui sont passées me voir. Si tout allait bien, si psychologiquement j'allais bien. Hein.
Pascal est abasourdi par ce qui vient de se passer, mais pas surpris.
Depuis quelques années, il y a beaucoup de problèmes ici, contre le trafic de drogue, les incivilités. C'était un quartier très tranquille et maintenant, voilà, c'est fini. Je l'ai dit la semaine dernière, je dis un jour ou l'autre, on aura un souci. C'est arrivé, quoi, c'est bien triste.
Pourquoi le jeune Français d'origine afghane a-t-il tué de 4 coups de couteau ce fils de restaurateur, apprenti de 15 ans également ? Guet-apens, lié à un rendez-vous via les réseaux, trafic, mauvaise rencontre, aucune hypothèse n'est écartée. Des témoignages mettent aussi en cause la mère du mineur, âgée de 37 ans. Elle a également été interpellée.
Christian Panvert à Châteauroux pour RTL. Et selon la procureure, le principal suspect était concerné par deux procédures, dont l'une pour des faits de vol aggravé avec violence. Il était placé sous contrôle judiciaire, la seule mesure de sûreté prévue par la justice au vu de son âge.
Le gouvernement veut que les trafiquants de drogue passent à table.
Pour lutter contre le narcotrafic, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a annoncé hier la création d'un statut de repenti plus protecteur, inspiré du modèle italien. Il faut dire que le texte actuel est très peu appliqué. Alors, qu'est-ce qui changerait ici, Cindy Hubert ?
Aujourd'hui, pour obtenir le statut de repenti, il faut apporter des informations cruciales sur la table. Les policiers du SIAT, un service très sensible, vont évaluer la crédibilité de la personne, le niveau de menace, et en échange, ils peuvent lui proposer une protection policière, une aide financière, une exfiltration, et parfois l'élaboration d'une légende avec un nom d'emprunt, tout cela sous le contrôle d'un juge. Mais ce dispositif reste très peu utilisé. Il y a aujourd'hui 18 repentis en France. La chancellerie voudrait donc rendre ces programmes plus attractifs en offrant à ceux qui brisent l'omerta la possibilité d'un changement d'état civil officiel et définitif, mais aussi des réductions de peine devant les tribunaux, ce qui est loin d'être systématique aujourd'hui.
Cindy Hubert du service police-justice de RTL.
Il est 7h03, l'équivalent d'un mois de pluie tombée en seulement quelques heures. C'est ce qu'ont vécu ce week-end les habitants de la région lyonnaise.
Avec des coulées de boue, notamment à Fézin, Antonio et boulanger dans la commune, il a réussi à l'évacuer et le raconte à Anna Jojard.
L'eau commençait à rentrer à l'intérieur des sous-sols et c'était un peu la panique, quoi. Au début, c'était de l'eau, ça arrivait à infiltrer dans les évacuations des égouts, là. Et quand la boue est arrivée avec des branches et machin, c'était une catastrophe. Ça a tout bouché et la rue était complètement inondée. Et ça a commencé à rentrer à l'intérieur du magasin et j'ai, avec un voisin, on a pensé à soulever ce qu'on appelle les évacuations d'eau, là, les grilles. Ça a permis de descendre des niveaux d'eau. Le problème, c'est que les champs en haut sont engorgés d'eau. C'est une vraie piscine dans les champs en haut. Si ça repleut encore toute la journée, je pense que ce soir, on est rebelote, hein.
Et avec ces intempéries, le retour des trains entre Givors et Lyon-Perrache se fera au mieux mercredi. Un TER avec environ 200 passagers a dû être évacué hier soir après un affaissement de talus.
Sur les routes, c'est une info RTL. Vos voitures pourraient bientôt rouler avec un carburant 100% renouvelable.
Le super éthanol E85. RTL vous expliquera à 8h10 comment fonctionne ce produit. Rien qu'en France, il pourrait profiter à 10 millions de voitures essence. Et vous avez pu le tester pour RTL, Christophe Bourreau.
Au volant, rien ne change. Même sensation, même consommation. Pourtant, dans le réservoir, il y a bien un nouveau carburant fabriqué à partir de l'E85 qui contient jusqu'à 85% d'éthanol issu de céréales ou de betteraves. Seulement là, on va plus loin, explique Nicolas Courstouglou, responsable carburant de Bioéthanol France.
Tout simplement, en fait, on enlève la partie d'essence classique fossile dans le E85 et on le remplace par 15% de carburant renouvelable. Ce carburant, il peut être à partir d'huile de cuisson usagée. À la fin, on a un E85 qui vient à 100% de la biomasse.
Avantage de ce super éthanol 100% renouvelable, ses faibles émissions.
Ça permet de réduire de 70% les émissions de CO2 par rapport à l'essence et de 90 à 98% les émissions d'oxyde d'azote et de particules en empreinte globale, c'est-à-dire y compris la production du carburant et sa consommation.
Avantages écologiques et économiques pour un prix qui devrait être attractif autour des 1 euro le litre.
Christophe Bourreau, spécialiste auto de RTL, teste à retrouver en images ce soir dans le 19-45 de M6. Alors ce ne sera pas pour tout de suite ce carburant puisque la Commission européenne doit d'abord le valider.
Si les agences de notation ont choisi d'épargner la France pour sa dette, les oppositions risquent d'être moins tendres cet après-midi.
Puisqu'un débat sur les finances publiques va se tenir à l'Assemblée et après l'annonce du gros dérapage du déficit l'an dernier, certains agitent désormais la menace d'une motion de censure, William Galibert.
Oui, il n'y aura pas de vote cet après-midi à l'Assemblée, mais toutes les oppositions auront la parole les unes après les autres et elles vont dire tout le mal qu'elles pensent de la gestion économique du gouvernement Macron. Explosion des déficits, recettes et croissance en baisse, chômage qui remonte après avoir chuté. Et ça, à un mois et demi des européennes, c'est une musique que l'exécutif va avoir bien du mal à faire taire. Pas de vote donc aujourd'hui, pas de vote non plus sur un éventuel budget rectificatif pour expliquer où le gouvernement veut faire des économies. Emmanuel Macron ne veut pas en repasser par là. Les députés et les sénateurs crient au scandale et certains à droite chez LR menacent même de faire tomber Gabriel Attal prochainement en déposant une motion de censure pour dire « Stop, vous méprisez beaucoup trop le Parlement ». Voilà un peu la taille des nuages noirs qui planent en ce moment au-dessus du gouvernement.
William Galibert du service politique de RTL, un débat, on le disait, à un mois et demi des européennes et le scrutin commence à intéresser les Français. 64% selon notre dernier sondage BVA Xsight pour RTL, 5 points de plus sur un mois. Le Rassemblement National reste en tête des intentions de vote avec 31% devant la liste Renaissance et ses 17% et Place Publique avec 13%. De nouvelles frappes israéliennes cette nuit ont fait une dizaine de morts sur Rafah et c'est dans ce contexte qu'une délégation du Hamas doit se rendre aujourd'hui en Égypte pour répondre aux propositions sur un cessez-le-feu avec Israël dans Gaza. Par ailleurs, selon le New York Times, la Cour pénale internationale prépare des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et d'autres responsables israéliens accusés d'avoir délibérément affamé des Gazaouis.
On en vient au foot et c'est une première dans son histoire. Brest jouera bien en Coupe d'Europe la saison prochaine.
À 3 journées de la fin du championnat de Ligue 1, le club a arraché sa qualification hier après une incroyable victoire contre Rennes, 5-4, Philippe Audouin.
L'euphorie de fin de match aura été à la hauteur d'un scénario complètement fou et renversant, bien à l'image finalement d'une équipe épatante. Brest a été mené 2-0 avant de prendre l'avantage 4-2 et se faire remonter 4 partout pour finalement s'imposer dans la 6e minute du temps additionnel, 5-4. La liesse sur le terrain partagée ensuite avec les 1300 supporters brestois qui avaient fait le déplacement. Ce moment-là restera dans l'esprit du milieu de terrain, Pierre Lesmelou.
Quand c'est validé, c'est une explosion. Je pense qu'on nous voit tous, on est tous de notre côté à hurler. Non, franchement, c'était fou. Et c'est pour ça que là, on s'est lâché. Et en plus, on leur doit tellement, ils ne sont jamais lâchés. Donc là, ouais, maintenant, on peut chanter. C'est pour ça que ça fait plaisir. Stade Brestois, Coupe d'Europe.
Et oui, le Stade Brestois jouera la Coupe d'Europe la saison prochaine pour la première fois de son histoire. Peut-être même la Ligue des Champions. Destin incroyable pour le 15e budget seulement de Ligue 1.
Philippe Audouin pour RTL, Brest en Coupe d'Europe et Paris, certain d'être champion de France pour la 12e fois de son histoire grâce à la défaite de Monaco hier à Lyon, 3-2 en clôture de cette 31e journée. Les autres résultats, Lille vainqueur de Metz 2-1, Lorient battu par Toulouse 2-1 également, Clermont gagne contre Reims 4-1, Nice s'impose à Strasbourg 3-1 et puis Marseille remonte à la 7e place après sa victoire contre Lens 2-1.
Chez les filles, Lyon, club le plus titré de la compétition, disputera sa 11e finale de Ligue des Champions.
Après avoir sorti le PSG hier 2-1, en finale, l'OL retrouvera Barcelone tenant du titre. Ce sera le 25 mai. En rugby, La Rochelle a battu Toulon 27-17 en clôture de la 22e journée du top 14, championnat toujours emmené par le Stade français. Et puis Cocorico sur le tapis rouge. vous l'a révélé ce matin, il y aura deux Français sur les 9 membres du jury du Festival de Cannes, Eva Green et Omar Sy, s'il vous plaît. Jury présidé, on le rappelle, par Greta Gerwig, la réalisatrice de Barbie. Première montée des marches, ce sera le 14 mai.
En attendant, on a des courses qui ont lieu aujourd'hui à Chantilly.
Le départ, c'est à 13h55.
C'est sûr.
Du tapis rouge au tapis vert. Les pronostics de Dominique Cordier, le 5, le 2, l'As, le 12, le 3, le 9, le 11, l'outsider de RTL, le 9.
Hortense Crépin nous proposait le journal de 7h sur RTL. Il est 7h10.
Et dans un tout petit instant sur RTL, les chiffres noirs des accidents du travail. 2 morts chaque jour en France. Nous sommes les pires élèves d'Europe.
Quant à vous, Alba Ventura, vous avez le sentiment que Jordan Bardella cherche à limiter les dégâts.
Ah mais ce n'est pas un sentiment. Hein. Vous verrez que Jordan Bardella, c'est l'art de l'esquive.
A tout de suite, Alba.
Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr. À l'écoute des entreprises avec l'APEC. Alors que les besoins s'envolent, les entreprises peinent à recruter. Virginie Pires, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultante à l'APEC. Comment aidez-vous les entreprises à embaucher ?
Eh bien, la première étape, c'est de leur faire comprendre que le mouton à 5 pattes n'existe pas. À l'APEC, nous les aidons à recruter le profil qui correspond vraiment à leurs besoins, notamment avec le service Sourcing Plus qui va de la rédaction de l'offre à la présélection des candidats.
Alors Antoine Dezalet-Joly, bonjour. Vous êtes DRH d'Eurogroup Consulting, un cabinet de conseil en stratégie et management, et vous avez eu recours au service de l'APEC. Racontez-nous.
Eh bien, nous souhaitions lutter contre les discriminations liées à l'âge et recruter des consultants seniors. Virginie m'a proposé un dispositif d'immersion professionnelle des candidats pendant une semaine pour qu'ils découvrent notre entreprise, notre métier et afin de tester leur aptitude à s'intégrer et à apprendre.
Et vous avez recruté ?
Oui, grâce à cet accompagnement de l'APEC, nous avons embauché 3 talents. Le dispositif a été très pertinent. Nous poursuivons et en plus, c'est gratuit.
Alors, Virginie, comment fait-on pour rencontrer un consultant de l'APEC ?
Eh bien, il suffit de prendre rendez-vous sur apec.fr.
Merci. Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde ? DS Automobile présente le surclassement en DS3 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux ? En ce moment, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS3 Crossback Itens 100% électrique d'occasion à partir de 199€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Pensez à covoiturer.
À tous ceux qui appellent un étendoir, un étendoir. À ceux qui disent étendage, pourquoi pas. Et à ceux qui disent séchoir, étang à linge ou pendoir. Attends, je dis comment, moi ? Dès mardi, Intermarché rembourse 50% de vos achats sur tout le rayon lessive en 2 bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bons d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 5 mai, des 20€ jusqu'à 30€ d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
RTL événement.
Et l'événement ce matin sur RTL, ce sont donc ces chiffres impressionnants. Chiffres sur les accidents du travail. 2 morts chaque jour en France. 2 chaque jour, c'est simple, nous sommes parmi les plus mauvais élèves d'Europe. La ministre du Travail, Catherine Vautrin, réunit aujourd'hui les organismes de prévention, avant sans doute des annonces du Premier ministre dans les prochaines semaines. Bonjour Mathilde Piquet.
Bonjour.
Derrière ces accidents, il y a aussi bien sûr des vies, des familles. Vous avez rencontré une femme qui a perdu son mari dans un accident du travail.
Oui, le 3 avril 2020, c'est le jour qui a fait basculer la vie de Johanna. Son mari Alexandre travaille alors dans une laverie industrielle en Île-de-France depuis 3 ans en tant que technicien de maintenance.
La gendarmerie frappe à la porte pour m'informer que Alexandre avait eu un accident et que malheureusement les secours n'avaient pas réussi à le réanimer. Et j'en sais pas plus. J'ai eu cette sensation de mon corps qui se brûlait de l'intérieur. On avait 2 enfants, mon fils 4 ans à l'époque et ma fille 4 mois. De quoi il est mort, papa ? Comment vous voulez qu'eux ils se construisent ? Je découvrirai par la suite qu'en fait il est tombé dans un sèche-linge et que le sèche-linge s'est remis en route.
Et Johanna en est persuadée, hein, cet accident aurait pu être évité avec plus de prévention.
La sécurité, la prévention, elle n'existe absolument pas. Mon mari Alexandre m'a toujours dit, mais tu te rends pas compte, je peux tomber, je peux me faire mal. Dans ma tête, je me dis, mais quel pataquès qu'il me fait. Et je pense que la plupart des Français n'ont absolument pas conscience du risque qu'on prend au travail. La plupart des accidents mortels au travail, ils peuvent être évités juste par la prévention.
Alors l'entreprise d'Alexandre n'a pas été condamnée. L'enquête de la police judiciaire a été classée sans suite. Encore aujourd'hui, la responsabilité pénale n'est pas établie. Impossible de savoir si c'est Alexandre qui a oublié d'enclencher le mécanisme de sécurité ou s'il y a eu manquement de l'entreprise. L'inspection du travail a néanmoins rouvert une enquête en février. Le procureur de Melun doit donner ses conclusions dans les prochaines semaines.
Et on l'entend, cette jeune femme qui le répète, hein, il manque de prévention. C'est ce que réclament d'ailleurs les familles, les victimes. Mathilde, est-ce que les entreprises y arrivent ?
Eh bien, pas vraiment. Exemple dans le bâtiment où a lieu la moitié des 700 accidents mortels chaque année. Christophe Bouguin est à la tête d'une entreprise entreprise familiale dans les Yvelines. Il sensibilise ses salariés avec des réunions régulières et pourtant, le mois dernier, le patron a dû stopper un chantier. Deux de ses salariés n'avaient pas pris le bon équipement.
Ils s'aperçoivent une fois qu'ils sont arrivés sur le chantier qu'ils n'ont pas les harnais. Ils ont juste 5 étages en dessous d'eux. Ils se posent pas la question. Ça m'a réveillé la nuit d'après. Je vois le drame, je vois le mec par terre. Moi j'ai une vingtaine de salariés, je peux vous dire que je tremble 20 fois.
Et une fois sur le terrain, les employés reconnaissent prendre quelques libertés. Clémence, une chargée d'affaires.
Gants, chaussures de sécurité, lunettes, casque. C'est clairement trop lourd. Ça nous arrive des fois de se dire, je vais enlever mes lunettes parce que ça me gêne, j'ai de la buée. C'est pile à ce moment-là qu'on va se prendre un truc dans l'œil.
Des gestes de prévention pourtant essentielle, surtout auprès des jeunes. Les moins de 25 ans formés au risque professionnel ont deux fois moins d'accidents du travail.
Et comment faire justement pour améliorer la prévention, pour la rendre plus efficace?
D'abord en y accordant plus de moyens, c'est ce que réclame la CGT. Benoît Martin, membre de la Confédération Nationale.
Il faudrait mettre vraiment des moyens importants dans la prévention. Le nombre d'inspecteurs du travail diminue. Ça devient un débat beaucoup plus présent dans l'espace public et on ne voit pas moins d'accidents du travail. Il y a là une vraie contradiction.
Le secteur privé aussi se mobilise. Par exemple, le vendeur de matériaux Point P lance aujourd'hui une campagne de prévention à l'attention des artisans. Et puis, des start-up utilisent l'intelligence artificielle pour repérer les situations dangereuses dans les usines. Autant de pistes pour enfin sortir du fléau des accidents du travail, 500 000 par an.
Merci beaucoup Mathilde de Piquet. On rappelle ces chiffres, 700 accidents mortels chaque année en France, ça fait 2 par jour.
Il est 7h16.
RTL Matin.
Bonjour Alba Ventura.
Bonjour à tous.
Vous revenez ce matin sur le refus de Jordan Bardella de répondre aux journalistes sur son programme de campagne. Ça vous choque ?
C'est inadmissible. Enfin, pardon, vous convoquez la presse et vous filez à l'anglaise comme si ça n'allait pas se voir. Alors, c'est ce qu'a fait Jordan Bardella jeudi dernier. Il avait organisé une conférence de presse après le discours d'Emmanuel Macron pour répondre au président. Jordan Bardella a lu un texte préparé pour lui et il est parti en laissant son directeur de campagne aux questions des journalistes. Enfin, quand on est tête de liste, on défend des positions, des principes, surtout quand on est en tête dans les sondages. Bardella, c'est l'art de l'esquive.
Pourquoi a-t-il refusé de répondre aux journalistes ?
Alors, il faut quand même que je vous dise, Yves, qu'il a quand même eu le toupet d'expliquer hier qu'il avait eu un pépin de santé. Sans commentaire. Non mais, comme il est le favori, vous comprenez, il ne veut prendre aucun risque. Et il sait que chaque prise de parole est un risque. D'ailleurs, toutes les fois où il s'est exposé, il a montré ses failles. C'est pour ça qu'il a été notamment remplacé sur des plateaux télé par d'autres membres du RN, plus à l'aise que lui sur certains sujets. C'est pour cela qu'il choisit ses adversaires, comme par exemple Raphaël Glucksmann, le candidat PS Place Publique. Alors sur le fond, il était nettement moins bon, Jordan Bardella, mais sur la forme, il arrivait à faire illusion. Et il pense que c'est suffisant aux yeux de ses électeurs. C'est pour ça aussi qu'il a boudé les débats. Alors, il va en faire désormais de plus en plus, et notamment sur RTL, tiens, le 5 mai, avec tous les autres candidats. Mais il en a refusé 3. Il a refusé d'aller parler sur la chaîne Public Sénat en disant « Ah non, mais moi, je ne vais pas sur Télé Coquelicot ». Un peu arrogant quand même sur les bords. Vous savez, au RN, on est des traumatisés du débat, depuis le crash en direct de Marine Le Pen à la présidentielle de 2017. Donc, on est dans ce qu'on appelle le « damage control ». Ça, c'est un terme anglais de communication qui signifie le contrôle des dégâts, limiter les dégâts, ne pas se mettre en difficulté.
Mais ça risque de dissuader les électeurs ?
Non, vous savez, chez les électeurs de Jordan Bardella, la plupart sont sûrs de leur vote pour les européennes. Mais enfin, s'il veut être un leader politique, il va quand même falloir accepter d'abord le débat démocratique, avec les journalistes notamment, et puis faire preuve de solidité, montrer qu'il y a quelqu'un derrière l'affiche. Il a quand même dit qu'il aspirait à devenir Premier ministre. Sauf qu'il apparaît plutôt aujourd'hui comme un objet de communication. Alors, il en maîtrise les techniques, il est doué, mais sur le fond, il ne pèse pas. Ce que n'a pas intégré Jordan Bardella, c'est que l'Europe porte des sujets importants pour le vote dans 3 ans, à la prochaine présidentielle. L'immigration, l'écologie, l'énergie, l'indépendance, la défense. Alors, il n'a pas investi ces sujets. Bon, peut-être si l'immigration. Mais il fait surtout des punchlines, c'est un peu court, et ça commence à se voir.
Merci beaucoup, Alba Ventura. On vous retrouve bien entendu sur le site rtl.fr.
À bientôt 7h19 sur RTL. Nous sommes le 29 avril et c'est à cette date que les Françaises ont voté pour la première fois. C'était en 1945. La suite avec Laurent Deutsch. À tout de suite.
RTL Matin.
Ça s'est passé sur RTL.
Christelle, êtes-vous surendettée?
Oui, j'ai 47 000 euros de dette. Je vais être expulsée de ma maison. J'attends la décision du juge pour savoir quand.
Lucien, bonjour, mon cher Lucien.
Bonjour. Le cas de Christelle ne peut qu'émouvoir et je me proposais tout simplement de l'aider en reprenant sa dette sur sa maison.
C'est formidable d'entendre ça. Hein. J'imagine qu'elle est émue, Christelle.
Je ne sais pas quoi dire. Merveilleux. Je suis très émue.
Merci à tous pour votre générosité.
Vous allez vous en sortir, Christelle. Croyez-en, la solidarité d'RTL.
Et oui, c'est ça, le vivre ensemble sur RTL. Faire les voyages dont on a toujours rêvé une fois à la retraite, oui, ça arrive. Acheter la maison de ses rêves au Pays Basque et s'y installer, oui, ça arrive.
Mon seul critère, c'était vue sur mer.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie, avec AG2R La Mondiale. Constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
RTL, entrée dans l'histoire.
Bonjour Laurent Deutsch. Bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, vous nous parlez des élections municipales du 29 avril 1945. Les premières élections de l'après-guerre.
RCI présente Au cœur du pays Guadeloupe. Explorez l'histoire de nos communes au travers des événements, des personnalités et des moments marquants qui façonnent notre île. Avec le soutien de la région Guadeloupe, la tradition radiophonique rencontre l'innovation du podcast. Au cœur du pays Guadeloupe, à découvrir sur le site de RCI.fm et sur vos plateformes de streaming.
Je suis pas sûr.
Ah bon ?
Oui, parce que sous l'Ancien Régime, à l'époque de nos rois, eh bien certaines femmes avaient déjà obtenu le droit de vote depuis bien longtemps. Et oui, il existait alors une forme de suffrage pour les conseils communaux ou les assemblées provinciales. Et si le vote était limité aux personnes bénéficiant d'un certain revenu, les femmes fortunées, veuves ou célibataires, pouvaient voter. Elles l'ont fait d'ailleurs aux États généraux en 1789. Et puis c'est la Révolution qui a décidé de les exclure du corps électoral. Du coup, la Déclaration des droits de l'homme portait bien son nom. Et Olympe de Gouges pouvait s'écrier vainement « La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également le droit de monter à la tribune ». Après la Révolution, il faudra donc attendre 155 ans pour que les femmes puissent retrouver le chemin des urnes.
Effectivement, le combat a été long.
La lutte pour l'égalité a réellement commencé à partir de 1848. À cette date, la Deuxième République a créé le suffrage universel, mais exclusivement pour les hommes.
Mais qui s'opposait en France au droit de vote des femmes ?
Alors, malgré quelques députés socialistes plutôt favorables au vote féminin, la gauche se méfiait généralement de ce scrutin trop universel. On disait que les femmes ne se déplaceraient jamais pour aller voter, qu'elles étaient plus réactionnaires que les hommes et surtout qu'elles étaient trop favorables à l'Église. Une tare irrémédiable en ce début de XXe siècle qui préparait la loi de 1905 sur la laïcité. Mais finalement, l'analyse du vote de 1945 a fait taire toutes ces idées reçues. Les femmes ont voté en masse et elles se sont globalement exprimées de manière plus modérée que les hommes. Et aujourd'hui, les sondages ont bien du mal à distinguer un scrutin proprement féminin. Eh oui, le vote aussi, aujourd'hui, n'est plus genré.
Merci Laurent Deutsch.
Il est bientôt 7h23 sur RTL. Dans 5 minutes, le journal et à la une mère et son fils de 15 ans, toujours en garde à vue ce matin à Châteauroux. L'adolescent, déjà connu des services de police, est soupçonné d'avoir tué à coups de couteau un autre jeune de 15 ans. Ça s'est passé samedi soir. Et puis ces pluies diluviennes dans la région de Lyon. Un TER est resté bloqué après un éboulement. À son bord, 200 personnes. La météo, justement, Louis Baudin. On attend encore beaucoup de pluie sur une moitié du pays.
Oui, c'est ça, sur l'Est, hein, et notamment sur le Lyonnais, sur les Pyrénées, c'est vrai qu'on va avoir encore de la pluie toute la journée. Dans les autres régions, ça va aller un peu mieux quand même.
15h30, 18h sur RTL, c'est le rendez-vous de vos grosses têtes. Et cet après-midi, vous les retrouvez pour une émission exceptionnelle depuis Montluçon dans l'Allier. L'occasion pour les sociétaires d'évoquer leur déplacement en tournée.
En province, on dit toujours, vous allez jamais en province. Je dis, ça dépend pas de moi, ça dépend d'Angers. S'ils m'invitent pas, j'y vais pas.
C'est-à-dire que vous avez...
J'étais contre Lyon.
Et c'est ça, les dates de tournée. Vous affichez les dates de tournée d'un artiste. Alors, croyez-moi, j'en sais quelque chose, parce qu'il y en a quelques-uns qui tournent en ce moment. À chaque fois, il y a quelqu'un qui vous envoie un message. Ah, mais pourquoi vous venez pas à Toulouse? Vous n'aimez pas Toulouse. Mais on y est pour rien. Si Toulouse nous demande de venir, bah, oui, on vient. Mais il faut qu'il y ait une demande. C'est pas nous qui décidons de là où on passe. Oui. Il a raison, Obal.
Des fois, il y a un autre phénomène. On passe à Toulouse et une semaine après, on me dit, mais pourquoi vous venez pas à Toulouse?
Vous avez raison.
Mais oui, il a raison. Ben c'est Boudère, ça, vous voyez. Boudère a souvent raison.
Souvent. On les retrouve dès 15h30 et jusqu'à 18h, les grosses têtes à Montluçon, émission spéciale en partenariat avec le quotidien La Montagne. Il est 7h24. Très bon début de journée sur RTL.
Notre météo avec Louis dans un instant.
Bonne journée sur RTL.
RTL, vivre ensemble.
Amazon offre jusqu'à 8 000 € pour la formation professionnelle. Grâce à cela, Daniel a suivi une formation de développeur logiciel. Maintenant, il considère le son de son clavier comme la plus belle musique qui soit. En 2 ans, il est passé de préparateur de commandes au métier de ses rêves. Et même son fils trouve qu'il se débrouille pas si mal en codage. Ce qui n'est pas peu dire de la part d'un adolescent. Chez Amazon, nous sommes engagés envers la formation et l'évolution des carrières, sous conditions d'éligibilité.
Visio Confucius, tu vois, toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
Ok, ben ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Tout à l'heure, dans l'heure du crime, l'affaire Joséphine Bernard, le curieux suicide d'une jeune femme de 27 ans, pleine de vie, qui travaillait à Disneyland Paris. Enquête bâclée. Pour certains, la victime était indésirable. Le suicide cache-t-il un meurtre? L'affaire Joséphine Bernard, l'heure du crime, tout à l'heure, 14h30 sur RTL.
RTL Matin.
Pour profiter de l'été, Batiman, spécialiste de la protection solaire, installe chez vous store pergola brise-soleil sur mesure et motorisé.
Il est 7h26, oui, on a un petit peu de temps, c'est pas agréable, d'autant plus que c'est tellement agréable ce que vous allez nous raconter. Ouais, je suis pas sûr, magnifique.
Pas sûr d'avoir besoin de beaucoup de temps
pendant toute la semaine. Bon, c'est épouvantable.
Ah, mais c'est épouvantable. Voilà. Alors ça l'était hier, surtout dans les régions de l'Est, hein, avec des précipitations toute la journée, quasiment de la Méditerranée jusqu'au Lyonnais, vers l'Alsace, la Lorraine. Et là, ça continue. Il pleut sur le Languedoc, sur la vallée du Rhône, sur le Lyonnais. Il pleut sur la Franche-Comté également, sur les Pyrénées, sur le Massif central. Et là, encore, ça va durer toute la journée, principalement entre le Languedoc et le Lyonnais, entre le Massif central et les Pyrénées. Sur la Bourgogne, c'est surtout ce matin, cet après-midi, ça devrait aller un petit peu mieux. Mais vraiment, c'est un couloir de pluie qui remonte du sud vers le nord, sur toutes ces régions. Mais ailleurs, notamment dans le nord-ouest, sur l'Île-de-France, la vallée de la Loire, près de la Manche, on devrait retrouver un temps un peu plus sec et un peu plus ensoleillé quand même. Aujourd'hui, hein, c'est juste aujourd'hui. Et puis à l'est également, entre les Alpes et la Corse, ça devrait rester un petit peu plus lumineux. Et là aussi, sans précipitation. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il pleut énormément sur les Pyrénées-Orientales.
Ah, et ça, il n'avait pas plu.
Voilà, il n'avait pas plu. On va avoir 40-50 mm sur ce département, donc ça devrait quand même des pluies.
On mettra cierge, hein, parce que franchement.
Oui, c'est ça. Exactement.
C'est épouvantable, hein, comme situation.
Comme situation. Alors, ça ne va pas l'améliorer d'un seul coup, mais au moins, la situation devrait être quand même un petit peu moins dramatique dans les prochaines heures. Donc, les températures, elles, là où le ciel était dégagé en cours de nuit, notamment dans le nord-ouest, on n'est pas très loin des gelées. Il y a 2 degrés à Laval, 3 à Deauville, à Caen, à Vannes, par exemple, 3 degrés également du côté de Quimper. Ailleurs, on est entre 5 et 10 degrés.
Ce sont des valeurs d'hiver, non?
Ce sont des valeurs de mois de mars, oui.
De mars, d'hiver.
Vous avez raison. Non, c'est encore un peu frais, mais au moins, il n'y a pas de gelée en pleine pour nos agriculteurs. Et puis, cet après-midi, nous serons entre 14 et 17 degrés. Alors là où il pleut, c'est-à-dire en gros du Languedoc jusqu'à la Bourgogne. Mais dans les autres régions, ça devrait être un petit peu plus printanier, 17 à 22 degrés quand même. Hein. Ça ira un petit peu mieux temporairement.
Et j'ai lu un mois de pluie en quelques heures à Lyon. C'est énorme.
69 mm de pluie. Depuis qu'on fait des relevés à Lyon, on n'avait pas enregistré une telle quantité sur une journée. Effectivement, c'est l'équivalent d'un mois qui est tombé en 24 heures.
Dites-moi, j'ai rêvé ou toute la semaine va être absolument épouvantable? Parce que j'allume ma petite météo sur mon téléphone, je vois de la pluie tout le temps avec des nuages.
J'aimerais bien que vous ayez rêvé, mais non. Effectivement, c'est ce qui nous attend. Pourquoi? Parce que l'anticyclone des Açores, qui à cette époque de l'année commence à revenir vers nous, il est loin sur l'Atlantique, mais il ne bouge pas.
Donc vous voyez aucune amélioration?
Je ne vois pas d'amélioration pour la semaine.
Et vous avez déjà connu ça? Parce que moi j'ai l'impression que ça fait des années qu'on n'a pas eu une
situation quelques...
stationnaire dans la...
Alors c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir des printemps un petit peu humides, mais d'enchaîner automne, hiver et un début de printemps aussi pluvieux, ça non, je ne l'avais pas vraiment vu.
Merci beaucoup Louis Bonnat, vous faites bien d'écouter RTL. Ce sera votre soleil pour la journée, il est 7h30.
Amandine Bégaud.
RTL Matin jusqu'à 9h.
Et le journal avec Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous. Et vous en parliez à l'instant, il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie, 10 cm d'eau dans le Rhône hier, record de précipitations battu sur une journée, avec en conséquence de nombreux dégâts à déplorer ce matin à Najojard.
Et oui, un torrent de boue a envahi les rues de Fézin, la boue qui s'est même infiltrée dans certaines maisons. Quelques kilomètres plus loin à Givors, des automobilistes se sont retrouvés pris au piège par les eaux. Une partie de l'autoroute à 47 a même été coupé quelques heures au niveau de la commune à cause d'une inondation. À Grigny, c'est un train qui a déraillé après un glissement de terrain sur les rails provoqué par les fortes pluies. En tout, 200 passagers sont retrouvés bloqués plusieurs heures avant d'être évacués. D'ailleurs, pas de reprise du trafic entre Givors et Lyon-Perrache avant, au mieux, mercredi, le temps pour la SNCF de remettre les voies en état.
Les précisions d'Anna Jojard pour RTL.
RTL vous dévoile ce matin les conclusions de notre dernier sondage BVA Excite sur les élections européennes.
Et la principale information, William Guélibert, c'est que les Français s'intéressent de plus en plus à la campagne, ils sont 64%. Autrement dit, une hausse de 5 points par rapport au mois dernier.
Oui, en même temps, c'est déjà presque la dernière ligne droite. Dans un mois et demi, on vote. Dans 6 semaines, à peine, on vote. Donc, normal que les Français commencent à avoir tout ça bien en tête. Presque 8 sur 10 désormais peuvent même donner la date sans se tromper. Et c'est le 9 juin, bien sûr. Ces électeurs, ils nous disent aussi, c'est la réponse qui revient le plus, que ce sont les enjeux nationaux qui vont guider leur choix, pas les programmes européens. Et 40% des électeurs, 4 sur 10, veulent se servir de leur bulletin comme d'une sanction contre Emmanuel Macron et contre la politique du gouvernement. Pouvoir d'achat, santé, sécurité, ça ce sont les trois thématiques qui sont citées en premier lieu. Et un dernier point intéressant, ce sondage RTL a été réalisé après le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron, donc après son entrée en campagne, si on peut dire. Et pour l'instant, ça n'a aucun effet sur sa candidate Valérie Ayé, toujours largement distancée par le RN, 31% contre 17.
Les précisions de William Galibert du service politique de RTL.
L'enquête administrative sur l'agression de Samara vient de s'achever.
Ses conclusions sont attendues d'un jour à l'autre. Samara, c'est cette adolescente de 13 ans, rouée de coups devant son collège à Montpellier il y a bientôt un mois. Maître Galix, l'avocat de sa mère, nous donne des nouvelles de la jeune fille ce matin. C'est un document RTL signé Patrick Hisson.
Samara ne va pas bien, je peux vous le dire, elle ne va pas bien. Elle n'arrive toujours pas à s'exprimer. Donc sa mère va essayer de trouver un nouvel établissement.
Et à cet égard, elle a lancé une cagnotte pour pouvoir être scolarisée dans un établissement privé.
Tout à fait, parce qu'elle avait l'intention de scolariser sa fille dans un établissement privé où elle considère qu'elle sera beaucoup plus en sécurité.
5 mineurs ont été mis en examen pour l'agression de Samara. 2 ont avoué avoir frappé l'adolescente. Ces affaires de violence entre adolescents, elles se multiplient. Après Grande-Synthe, dans le Nord, ce week-end, c'est un jeune de 15 ans qui a été poignardé à mort à Châteauroux. Un adolescent du même âge, français d'origine afghane, déjà connu de la justice, et sa mère ont été placés en garde à vue.
RTL 7h32 aux États-Unis. Un Afro-Américain de 53 ans est donc mort étouffé sous le genou d'un policier.
Une affaire qui fait directement écho à la mort de George Floyd, devenu emblème des violences policières. C'était il y a 4 ans. Karine Houghton, vous êtes la correspondante de RTL aux États-Unis. La victime ici s'appelle Frank Tyson. Et comme George Floyd, ses derniers mots ont été ceux-ci.
Les supplications, les parallèles des deux situations.
I can breathe, je ne peux pas respirer. Ces paroles prononcées 7 fois, Carrie. Et Carrie, la scène a été filmée.
Les supplications, les parallèles des deux situations. Un homme noir immobilisé par un policier blanc. Toute la scène de ce bar de l'Ohio où Frank Tyson s'est réfugié après avoir fait percuter sa voiture contre un poteau et où deux policiers retrouvent sa trace. tout rappelle George Floyd. À ceci près que le policier ne garde son genou sur le haut du dos de Frank Tyson, alors à plat ventre, que pendant 40 secondes, bien moins longtemps que les 8 minutes 46 secondes qui ont effrayé le monde entier. Les causes de la mort n'ont pas encore été déterminées. Les deux policiers ont été suspendus le temps de l'enquête. 4 ans après George Floyd, cela montre surtout que la réforme des méthodes policières n'a pas vraiment été engagée. Il faut savoir qu'en 10 ans, environ 1000 personnes sont décédées comme cela lors de leur arrestation, totalement immobilisées.
Karine Auton, correspondante de RTL aux États-Unis.
Le football, ça y est, fin du suspense. Le Paris Saint-Germain est sacré champion de France.
Pour la 12e fois de son histoire et après la défaite concédée par son dauphin Monaco à Lyon en 31e journée de Ligue 1 hier soir, score final 3-2. Nicolas Georgerot, les Parisiens vont maintenant pouvoir se concentrer sur leur nouvel objectif, le triplé.
Oui, sacré alors qu'ils étaient chez eux, en famille, avec leurs proches. Les Parisiens se retrouvent ce matin pour la dernière séance d'entraînement avant de décoller pour Dortmund. Demain, c'est le 50e trophée dans l'histoire du club parisien. Le PSG en championnat n'a pas tremblé. Une défaite seulement jusqu'à présent et elle remonte au 15 septembre contre Nice. La concurrence était trop éparpillée cette saison. L'entraîneur parisien Luis Enrique évoque pourquoi pas un quadruplé inédit, trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France et Ligue des champions.
Sans aucun doute, c'est une motivation de faire quelque chose qui n'a jamais été fait en France. Marquer l'histoire du club, on est motivé pour ça. Le chemin est long et sinueux. Il faudra être concentré pour atteindre nos objectifs.
Encore 2 rencontres sans défaite en Ligue 1 et le Paris Saint-Germain battrait alors son record d'invincibilité qui est de 27 matchs. Et avec ce 12e sacre de champion de France, le PSG commence à creuser un écart avec le 2e au palmarès, l'AS Saint-Etienne et ses 10 titres.
Nicolas Georgerot du service des sports de RTL. Parmi les autres résultats d'hier, on retient l'impressionnante victoire de Brest 5-4 à Rennes. Brest désormais assuré de poursuivre son rêve européen. Et puis l'OM a battu Lens 2-1 à domicile à 4 jours de sa demi-finale aller de Ligue Europa contre l'Atalanta.
Rachel Sadoline nous proposait le journal de 7h30 sur RTL. On vous retrouve à 8h30.
A tout à l'heure.
A tout à l'heure, Rachel. Bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
Aidez-nous à comprendre Total Energy qui pourrait transférer sa cotation de Paris à New York. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien, vous aurez la réponse dans quelques instants. C'est une information qui n'est pas anodine parce que la souveraineté française est concernée.
A tout de suite avec L'Anglais Co et François L'Anglais.
7h, 9h, RTL Matin. Et maintenant, parlons aide à domicile dans l'instant petit-fils.
Bonjour Sonia. Vous avez fait appel à petit-fils voisin le Bretonneux pour votre mère, qui fêtera ses 100 ans cette année. Comment est-ce que Gerline, son auxiliaire de vie, l'accompagne au quotidien ?
Alors, du fait de sa stabilité, Gerline a pu faire connaissance avec maman de façon approfondie. C'est-à-dire qu'elle connaît ses petites habitudes, ses besoins, ses fragilités. Donc, il y a un grand respect pour la personne de maman. Donc, Gerline a pris maman en charge le matin pour faire sa toilette, pour l'aider au petit déjeuner, à s'habiller, pour l'occuper intellectuellement. Quant à moi, elle me permet d'être libre d'esprit. Donc, il y a une grande liberté d'être, autant pour maman que pour moi.
À bientôt pour un nouvel instant, petit-fils.
Quand vous avez un bris de glace, ça vous paraît compliqué à gérer ? Avec Carglass, c'est simple. Allez direct sur carglass.fr. En quelques clics, vous lavez votre rendez-vous. Comme on est agréé par la plupart des assureurs, on vous accompagne dans les démarches avec votre assurance. Et comme la majorité de nos clients, il n'y a pas de franchise à payer. Oui, oui, zéro franchise. En plus, jusqu'au 10 mai, pour toute intervention par brise, Carglass vous offre des balais d'essuie-glace Bosch. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
Carrefour. Quand vous me dites ronde, ferme, brillante et charnue, ça vous fait penser à... Eh bien, je vous réponds que les tomates grappes Origine France sont au prix le plus bas de 1,99€ le kilo seulement. Alors ?
Ah oui, aussi.
Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 10 fois la différence. Et c'est jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, partenaire fruits et légumes de Paris 2024. Catégorie 1, détails sur carrefour.fr.
RTL Matin.
Il est 7h37, L'Anglais Co avec vous François L'Anglais.
Bonjour à tous.
Alors le patron de Total Energy, Patrick Pouyanné, a indiqué vendredi à l'agence Bloomberg que le groupe envisageait de quitter la bourse de Paris pour aller se faire coter à Wall Street aux États-Unis.
C'est vrai, il s'agirait d'un transfert boursier d'une place financière à l'autre, alors que le siège social de l'entreprise resterait français.
Mais quelle est la raison de cet exil ?
C'est tout simple. Le capital de notre pétrolier national, qui fête ses 100 ans ces jours-ci d'ailleurs, est désormais détenu à 47% par des Américains.
Ah oui.
Et c'est une proportion qui ne cesse de grimper, au détriment des Européens et des Français. Total Energy, sur le plan de l'actionnariat, c'est-à-dire de ses propriétaires, est en train de devenir américain.
Pourquoi les investisseurs français se sont-ils détournés de Total ?
Ah ouais, c'est ça la question, qu'ils ne veulent pas d'énergie fossile dans leur portefeuille. Sous l'influence des recommandations de ce qu'on appelle l'investissement responsable. Bon, derrière, il y a le changement climatique évidemment, il y a la pression des ONG environnementalistes. Une bonne cause, mais le paradoxe, c'est qu'elle se traduit par l'affaiblissement d'une entreprise stratégique pour la France, alors que on a encore besoin de pétrole pour un bon moment, pour les décennies qui viennent.
Et donc nos amis américains n'ont pas du tout ces préventions.
Mais pas du tout. C'est un pays pétrolier, le premier du monde désormais, et donc les investisseurs achètent des actions des entreprises rentables, même si elles sont dans l'énergie fossile, et Dieu sait que les pétroliers sont rentables. Or, pour Total, c'est vital de trouver de l'argent grâce aux investisseurs pour financer son développement. Et dans le pétrole et dans les renouvelables. Il faut rappeler que Total Energy, outre son activité pétrolière et gazière qui est majoritaire, eh bien, elle est en train de devenir aussi un électricien de taille mondiale.
Est-ce un problème pour la France que l'une des premières entreprises quitte ainsi la Bourse de Paris ?
Oui, d'abord pour la place financière elle-même, et qui perdrait une entreprise de 160 milliards d'euros de valeur, c'est la quatrième plus grosse. Ensuite, pour le pays quand même, parce que avec ce transfert, les actionnaires américains seraient immanquablement de plus en plus nombreux. Par exemple, est-ce qu'on aurait pu obtenir de Total Energy le plafonnement du prix du carburant pendant la crise énergétique, si l'entreprise avait été intégralement américaine?
Oui.
C'est pas sûr. C'est quand même un risque pour la souveraineté économique française et il est probable que ce risque réapparaisse sur d'autres dossiers.
Alors, à quoi pensez-vous? Expliquez-nous.
Je pense à Mistral. Vous savez, Mistral AI, c'est une entreprise française de l'intelligence artificielle toute récente. C'est l'une des plus réputées au monde. Elle a besoin de centaines de millions d'euros pour financer son développement. C'est pour acheter des capacités de calcul électronique, des puces super puissantes qui valent chacune des dizaines de milliers d'euros pièce. Elle se tourne aujourd'hui vers les seuls investisseurs qui peuvent financer telle somme, des Américains. Et si la start-up veut se faire coter en bourse, là encore, pour trouver de l'argent, elle ira immanquablement aux États-Unis.
Donc ça veut dire que les États-Unis aspirent littéralement nos entreprises.
Exactement. Parce qu'il y a là-bas un marché des capitaux important.
Ouais.
Parce que la croissance y est deux fois plus forte qu'en Europe depuis des décennies. Parce que les réglementations sont souvent moins contraignantes, que l'innovation y est plus forte, parce que le gouvernement déverse des tombereaux d'argent pour subventionner les entreprises, parce que le prix de l'énergie aux États-Unis est deux fois plus faible que chez nous. Rarement le différentiel économique entre les deux rives de l'Atlantique aura été aussi prononcé qu'aujourd'hui.
Et une fois de plus, grâce à vous François Langlais, on y voit plus clair. Il est 7h41.
Et dans un tout petit instant sur RTL, on va parler repenti et mafia. Éric Dupond-Moretti veut s'inspirer du modèle italien pour lutter contre le trafic de drogue. Alors bonne idée ou pas, je pose la question à l'un de ceux qui connaît le mieux le système, Fabrice Risoli. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur RTL. Ça fait des années et des années que vous observez ce qu'il se passe en Italie. Vous avez rencontré de très nombreux repentis. Juste d'un mot, on est sur le bon chemin d'après vous ?
On est sur le bon chemin si on est bien bien clair sur ce qu'il manque au statut de coopérateur de justice qui existe aujourd'hui, parce qu'il existe déjà. Il manque avant tout de pouvoir protéger les personnes qui ont commis des crimes de sang.
Car protéger les personnes qui ont du sang sur les mains.
Protéger les gens qui ont du sang sur les mains, parce qu'en Italie, ça a démontré toute son efficacité, alors que le système français ne le permet pas.
On parle de ça dans un instant, tout de suite.
Amandine Bégaud, Yves Calvi. RTL Matin jusqu'à 9h.
Chez BYD, nous croyons en vos rêves, le rêve d'atteindre vos objectifs. Pour cela, BYD développe depuis 30 ans son expertise dans l'innovation pour vous proposer une mobilité décarbonée en toute sécurité avec des véhicules électriques nouvelle génération. Chez BYD, nous sommes l'harmonie entre technologie, design et exigence. Build your dreams. Donnez vie à vos rêves. Retrouvez votre concessionnaire BYD sur byd.com/fr.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon. RTL Matin.
RTL
RTL 7h42, Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin Fabrice Risoli.
Vous êtes Fabrice Risoli, le spécialiste en France de la grande criminalité et des mafias, président de l'association Crimalt qui lutte depuis des années contre la grande criminalité. Éric Dupond-Moretti, je le disais, l'a dit hier, il est allé voir ce qu'il se passait en Italie et veut donc créer un véritable statut de repenti sur le modèle italien. Expliquez-nous d'abord comment ça se passe là-bas, qui peut devenir repenti et comment il est pris en charge.
Donc, un mafieux qui a donc commis des actes criminels d'une certaine importance, on ne va pas s'intéresser aux petits soldats, en général est dans une situation où il sait qu'il risque par exemple la prison à vie, voire pendant longtemps il pensait qu'il allait être assassiné. Donc il avait cette éventuelle motivation d'être protégé par l'État pour sauver sa vie ou changer de vie, il peut y avoir aussi des dimensions familiales. L'État arrive, lui propose avant tout, et j'insiste, une protection, avant tout, à lui et sa famille, si elle veut le suivre.
Une protection qui peut passer par un changement de nom, un changement d'identité, alors, ou pas tout de suite?
Alors, tout d'abord, être dans un lieu dit secret ou très discret ou peu connu. Le changement d'identité est en réalité souvent un changement d'identité avec une nouvelle identité d'emprunt. C'est très compliqué de faire changer totalement l'identité de quelqu'un, ce qui n'est pas sans poser de problème. Mais l'idée, c'est que cette personne qui est protégée par la police, etc., doit donner tous ses complices. Donc c'est un processus qui est assez long. Les collaborateurs de justice italiens passent leur temps pendant des années à faire le tour des tribunaux pour dénoncer leurs complices. Doit donner tous leurs avoirs. S'ils ne respectent pas ces conditions, ils peuvent perdre la protection. Alors j'insiste encore une fois sur la protection, parce que derrière, évidemment, il y a aussi des remises de peine et des aménagements de peine. Je voudrais juste rappeler que ce n'est pas l'impunité totale, que parmi
les mafieux... C'est pas parce qu'on livre tous ses complices qu'on est dispensé de peine.
Exactement, c'est-à-dire que certains tueurs de la mafia ont par exemple fait 20 à 25 années de prison. Par contre, ils étaient dans une aile protégée, une prison spéciale, et par exemple, pouvaient voir plus facilement leur famille que d'autres détenus. Et je rappelle enfin que les aménagements de peine et les réductions de peine existent dans tous les codes de procédure pénale. Quand on aide à la manifestation de la vérité, ce n'est pas réservé aux collaborateurs de justice. Et enfin, je voudrais dire que c'est extrêmement efficace en Italie, puisque ça permet de connaître la mafia de l'intérieur et que c'est la seule manière de connaître un phénomène criminel, caché, secret, que d'avoir des personnes de l'intérieur. Et on combat bien que ce qu'on connaît. Et enfin, ça a permis de restaurer l'état de droit, l'ordre public, parce que ça permet, par exemple, de condamner les commanditaires des homicides. C'est-à-dire que on pouvait prendre la personne avec l'arme où il pouvait être dénoncé, etc. Mais on c'était difficile de condamner le chef. Le chef qui disait à son soldat, va tuer. Grâce à ça, on limite l'impunité.
Vous diriez que ce statut, il a vraiment permis de contrer la mafia en Italie?
Ah, il a permis de fracturer de l'intérieur toute cette loyauté, toute cette omerta, toute cette loi du silence. Et c'est une des raisons pour lesquelles, en Italie, la mafia ne tue plus. Il y avait un homicide par jour en Sicile dans les années 80. Aujourd'hui, la mafia existe encore, comme aiment certains à le rappeler, mais au moins elle ne tue plus. Et comme la vie humaine c'est sacré, la mafia italienne est moins dangereuse parce qu'il n'y a plus d'homicides.
Et Fabrice Risoli, vous en avez rencontré des repentis, certains sont pris en charge dans des programmes spécifiques, d'autres non.
Oui. C'est
quoi leur vie? Comment assument-ils ça?
Oui, alors, c'est pas facile. C'est ça qu'il faut aussi envoyer comme message. Il y a des gens qui essayent, qui craquent, qui sortent du programme de protection. Parce que quand vous êtes quand même parfois habitué à gagner de grosses sommes d'argent et d'avoir du pouvoir sur le territoire, d'être capable de donner du travail, d'arbitrer, d'être un chef, d'être quelqu'un qui compte, vous vous retrouvez dans une petite commune des Marques, je n'ai rien contre mes amis de Ancône, etc., dans un petit appartement, au mieux avec votre famille, ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'est plus facile quand on est avec la famille, c'est ce que démontrent les enquêtes, et que vous devez chercher un boulot ou qu'on vous donne un petit subside pour commencer, etc., c'est une vie qui n'est absolument pas facile.
Donc il y a des repentis qui replongent ?
Il y a des repentis qui sortent du programme de protection des témoins, mais par contre, c'est un chiffre très peu, c'est quelques pourcents, rien du tout. contrairement au système de protection des États-Unis, la fameuse loi RICO, qui, elle, est assez mal faite au sens que le témoin doit juste dénoncer dans le cadre d'une affaire. Il ne dénonce pas tous ses complices. Alors, il est un peu tenté, dans sa nouvelle vie qu'il considère comme pourrie, je vais le dire comme... il peut être tenté de recontacter d'anciens complices qu'il n'a pas dénoncés.
En disant, attention, j'ai dénoncé dans une affaire et...
Non, c'est surtout que s'il veut se refaire un trafic de drogue ou une escroquerie, ou etc., il va trouver des complices. Alors que là, en Italie, c'est pas possible.
Ici, en France, il existe un statut de repenti, collaborateur de justice, vous préférez d'ailleurs ce terme, depuis 2004, depuis 20 ans, donc depuis la loi Perben. Le problème, c'est que ce statut, le décret d'application a été signé seulement 10 ans plus tard, donc en 2014, et on a une vingtaine de cas seulement, donc en 20 ans. Pourquoi est-ce qu'il est si peu utilisé? Il est mal fait.
Oui, alors je vous jure que ce n'est pas que de la sémantique. À Crimalt, nous militons pour qu'on n'utilise pas le terme de repenti. J'aimerais qu'on le fasse en Italie aussi, parce qu'on voilà, on n'est pas dans la dimension religieuse, on n'est pas dans la repentance, on est juste dans basculer dans l'état de droit. J'étais un gangster professionnel, je ne reconnaissais pas l'état de loi. Aujourd'hui, je la reconnais, je me plie aux règles, et peu importe si avant je considérais ce que je faisais, c'était mal ou pas. Quant au mot collaborateur de justice, le problème c'est qu'en France, collaborateur dans une entreprise, ça va, de manière horizontale. Quand vous collaborez avec l'État, vous voyez à quoi je fais allusion. On a perdu la bataille des idées. Et précisément dans le statut français, on ne veut pas, entre guillemets, récompenser, protéger quelqu'un qui a commis des crimes de sang sous un prétexte moral.
Donc aujourd'hui, celui qui a tué ne peut pas devenir repenti ou collaborateur de justice.
Ne peut pas devenir... voilà, nous militons pour le terme de coopérateur de justice pour montrer que cette personne sera... au service de la justice pour la manifestation de la vérité.
Et c'est ça, d'après vous, qu'il faut changer ? Il faut excuser d'une façon ou d'une autre
On n'excuse rien du tout. On protège. Je rappelle que dans les droits de l'homme, la sûreté, c'est un droit de l'homme important. L'État doit protéger ses citoyens. Parmi ces citoyens qu'on choisit une vie de gangster, on n'excuse pas, on pardonne pas, on n'en est pas là. On condamne, ils font leur peine et ils permettent, par exemple, de trouver les assassins, y compris de victimes innocentes.
Mais vous comprenez que moralement, ça puisse gêner, financer la vie de quelqu'un qui a tué et de sa famille, le protéger.
Oui.
C'est le prix à payer. Mais vous diriez que c'est le prix à payer pour faire tomber certains raisons.
Alors, c'est certainement un prix à payer qui est dérisoire, parce que quelques millions d'euros en Italie pour protéger 1000 collaborateurs de justice, c'est rien par rapport à ce qu'on saisit. Par exemple, l'enjeu du statut français en 2014, quand il a fallu enfin signer le décret d'application, les policiers nous ont dit on n'a pas l'argent. Et Christiane Taubira, ministre de la Justice, a dit mais je comprends pas, ça fait 4 ans qu'on fait des confiscations, on se gargarise qu'on confisque des biens au crime organisé. C'est grâce aux biens qu'on confisque au crime organisé qu'aujourd'hui on finance le statut de coopérateur de justice qui existe déjà.
Et Éric Dupond-Moretti l'a dit, ça ne coûtera pas un centime aux contribuables français, voilà, puisque tout sera financé par la confiscation des avoirs criminels. Une question quand même qu'on se pose, Fabrice Rizzoli. La mafia en Italie, j'allais dire, ce sont quelques grandes familles, je schématise bien sûr. Ici en France, si on prend le trafic de drogue, c'est tout un tas de groupuscules ou en tout cas d'entités. C'est pas beaucoup plus compliqué à faire tomber ?
Alors c'est drôle ça, parce que justement, normalement, les partisans de la définition de la mafia comme des structures pyramidales, etc., une définition très française qui à mon avis ne correspond pas à la définition sociologique et même en droit de la mafia, ça devrait renvoyer à C'est plus dur en Italie. Donc moi je renvoie l'argument, qui peut le plus peut le moins, c'est-à-dire que si les Italiens nous ont démontré qu'on peut démonter des clans qui sont structurés sur le long terme, etc., on peut donc le faire encore plus facilement en France. Par ailleurs, je rappelle qu'il y a une criminalité corse qui ressemble fortement à la criminalité mafieuse qu'on a en Italie. Ensuite, quand on se fonde sur ce qui se passe à Marseille, vous avez aussi des dynasties dans le narco-banditisme des cités.
Mais ce statut de repenti, il peut régler le problème à Marseille, d'après vous ?
Il peut permettre de faire reculer les assassinats, et ça serait déjà extrêmement important.
À ceux qui disent que c'est une incitation à la délation, vous leur répondez quoi ?
Écoutez, dans on est en démocratie et un juge vous convoque, vous devez y aller, vous devez dire la vérité, vous pouvez, alors non pas vraiment être condamné si vous avez menti comme à l'américaine, mais en France, si vous ne répondez pas aux besoins de l'enquête, vous pouvez être condamné pour avoir pollué l'enquête. Donc en fait, l'objectif, encore une fois, c'est que les gens ne meurent pas lorsqu'ils ont décidé d'embrasser une carrière d'état de droit à des conditions économiques qui sont en général pas favorables. Je rappelle que dans le statut français, il est prévu en gros une aide les premières années, que très vite la personne doit trouver du travail et qu'au bout de 5 ans, il n'est plus question de le payer, enfin de lui donner un subside pour survivre. Donc je pense que c'est un faux débat. L'argent en jeu est très faible. En revanche, au nom de toutes ces personnes qui sont assassinées et y compris qui ne sont pas liées au trafic, je pense au petit Fayed qui avait 10 ans à Nîmes, je pense à Sarah qui avait 20 ans à la Belle de Mai, je pense à Kawata qui est rentrée à la Sorbonne.
Collatérale, comme on
que dit. Nous nous appelons innocentes, puisque nous ne sommes pas dans une guerre avec des soldats qui pourraient avoir des vues légitimes et qui feraient des victimes collatérales. Nous sommes dans une guerre dans une attitude totalement illégitime de la part des gangsters. Il y a des victimes innocentes. Il faut que l'État prenne de la hauteur et prenne les outils qui fonctionnent dans le respect des libertés publiques.
Et ça peut donc passer par statut de repenti coopérateur de justice, comme vous l'appelez. Merci beaucoup.
Mesure extrêmement efficace qui a permis de fracturer la mafia, vient de nous dire Fabrice Risoli. Vous restez avec nous, Fabrice Risoli, puisque vous êtes dans l'œil de Don Cave Rivière.
Oh là !
Oh, Don !
7h-9h, RTL Matin.
Amandine Bégaud et Yves Calvi.
Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid demain à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
On vous écoute, mademoiselle.
Merci, monsieur Géniaud. En ce moment, pour l'achat d'une véranda Rénoval, la TVA est offerte. Ma véranda, c'est Rénoval.
Point final.
Conditions sur Rénoval.com.
RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
Philippe, notre invité, Fabrice Risoli, docteur en sciences politiques, spécialiste de crime organisé, est resté pour votre chronique.
Bonjour Fabrice, on a la joie de vous recevoir car Alain Bauer, le nagui du crime, a rendez-vous chez Jean-Louis David à 8h pour une mini-vague. On sait juste qu'Alain Bauer a accumulé 507 heures dans les médias la semaine dernière, donc il a dépassé son quota. Donc on est ravis d'avoir Fabrice. On en profite bien sûr pour saluer votre frère Philippe. C'est fou les Risoli, parce que dans la même famille, quand t'as deux carrières tellement différentes, il y en a un qui réussit et l'autre qui chante Cuitas les bananas, et il aura beau se repentir, lui on ne pardonnera jamais. Là c'est crime contre l'humanité, tribunal de la haie. Parenthèse honnête, l'interview était super, Amandine, ce matin. Vous avez posé des questions tellement précises. Et comment ça marche? C'est pour tous les crimes. Je me suis dit, mais elle veut zigouiller Yves Calvi ou quoi? Pour la saison prochaine, peut-être. Alors, bref, Fabrice, vous êtes le spécialiste de la corruption, de la criminalité et de la mafia. Et je connais bien ces milieux mafieux, car j'ai moi-même un frère dans l'immobilier dans le sud de la France.
C'est sûr que
dans le sud de la France, il y a trois groupes de gens, les délinquants, les policiers, un troisième groupe beaucoup plus petit, avec ceux qui n'appartiennent pas au crime organisé. On évalue à 3% de la population. Alors, moi, je suis à 25% italien, j'ai un grand-père italien, et j'ai été blessé dans mon identité transalpine, car l'Italie, ce n'est pas que la mafia et les quatre fromages. C'est aussi le parmesan et le tiramisu. Et puis, on a eu des grands artistes.
Oui.
Léonard de Vinci, 1452. Puis après, on a un petit coup de mou. Jusque Claude Barzotti, 1982. On n'a jamais retrouvé le mojo, nous, les Italiens.
Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, crée donc un statut de repenti avec des peines réduites, un changement d'identité pour les trafiquants de drogue qui témoignent contre leurs anciens comparses.
Si vous voulez changer de nom, de métier, d'apparence, il y a deux solutions. Soit le programme des repentis d'Éric Dupond-Moretti, soit Drag Race sur France 2. Hein, je salue Nicky Doll et Piche. D'ailleurs, on entend qu'avocat Éric Dupond-Moretti a lui-même fréquemment été un joli barbu en robe. Dupond-Moretti, il t'offre un nouveau nom, un nouveau boulot, un nouveau domicile. Présenté comme ça, on dirait presque une nouvelle émission d'M6. La semaine dernière, dans mon incroyable changement de vie, Éric Dupond-Moretti avait aidé Sébastien, dealer montpelliérain, à devenir Loïc, marin-pêcheur à Saint-Brieuc. Aujourd'hui, Éric va aider Jean Touffy, trafiquant marseillais, responsable de 15 assassinats, car Jean Touffe rêve d'ouvrir une pâtisserie végane à Dunkerque. Pour y arriver, il va devoir changer d'accent, se faire appeler Jason, mais aussi épouser sa sœur. C'est tout de suite dans mon incroyable changement de vie.
Oh, j'ai hâte de voir l'émission.
On est tous en démarre cette émission.
Alors bon, évidemment, comme Fabrice Risoli vous l'a expliqué, il y a des conditions précises pour se voir accorder ce statut.
Bien évidemment, on promet aux repentis un nouveau don, une nouvelle identité, de l'argent, mais sous condition. Si Xavier de Ligonnès était arrivé 30 minutes juste après le quintuple meurtre en disant « Bon, ben, je vous donne le nom du coupable, mais juste si vous m'accordez le statut de repenti. » Les gars auraient fait « Bon, ben, ok. »« Eh ben, c'est moi, mais je suis repenti, je suis aperché. On peut pas toucher son père. Oh, merde, on s'est encore fait niquer. En plus, on lui doit 50 000. »
Bon, autre sujet, Emmanuel Macron souhaite ouvrir le débat d'une défense européenne comprenant l'arme nucléaire.
Oui. La bombe humaine, tu la tiens dans ta main.
Allez, tout bétri. On leur avait dit de ne pas mélanger Poppers et Red Bull. Ils vont exploser d'un coup, pas. Y a des mots qu'on n'aime pas entendre prononcer car ils jettent un voile sombre sur l'avenir. Des mots comme arme nucléaire, contrôle fiscal, chimiothérapie, chlamydia ou nouvel album de Vincent Niclot.
Oui,
Vladimir Poupou avait déjà évoqué la menace nucléaire. C'est maintenant au tour d'Emmanuel Macron. Le concours de Sgeg est lancé. Alors, on ne sait pas qui va gagner, mais dans tous les cas, ce sont des innocents qui vont être biflés. Ça, à l'oreille, c'est Vladimir, parce que le gland est plus ferme.
Oh non.
Tanné par le froid glacial des hivers sibériens, c'est presque du cuir. Bon, vite le pape,
vous manquez pas de toupet. Alors donc, je prends la formule. Sans transition, le pape François s'est rendu dimanche à Venise pour son premier déplacement depuis 7 mois.
Madou et Mariam, vous nous manquez. On leur avait dit pourtant, pas de selfie au bord de la falaise. Sans vous, les dimanches à Bamako n'auront plus jamais la même saveur. Le pape va pas fort, et c'est fou, on n'a jamais un pape en bonne santé. Non. Qui fait passer la visite médicale des papes? C'est vraiment fait par-dessus la jambe. Alors, les journalistes ont dit que c'est une visite éclair. Alors, à la vitesse où il bouge, le pape François visite éclair, c'est un audacieux oxymore. Le pape François est allé visiter une prison pour femmes où sont détenues 80 dangereuses prisonnières, et c'est courageux. J'ai envie de dire, c'est cool.